généralement les prévenus, soit pour aller en argot de palais à l'instruction, soit pour comparaître en police correctionnelle, sont versés par les paniers à salade directement à la souricière. La souricière, qui fait face au guichet, se compose d'une certaine quantité de cellules pratiquées dans les cuisines de Saint-Louis et où les prévenus extraits de leur prison attendent l'heure de la séance du tribunal ou l'arrivée de leur juge d'instruction. La souricière est bornée au nord par le quai, à l'est par le corps de garde de la garde municipale, à l'ouest par la cour de la conciergerie et au midi par une immense salle voûtée, sans doute l'ancienne salle des festins, encore sans destination. Au-dessus de la souricière s'étend un corps de garde intérieur ayant vu par une croisée sur la cour de la conciergerie. Il est occupé par la gendarmerie départementale et l'escalier y aboutit. Quand l'heure du jugement sonne, les huissiers viennent faire l'appel des prévenus, les gendarmes descendent en nombre égal à celui des prévenus, chaque gendarme prend un prévenu sous le bras. Et, ainsi accouplés, ils gravissent l'escalier, traversent le corps de garde et arrivent, par des couloirs, dans une pièce contiguë à la salle où siège la fameuse sixième chambre du tribunal, à laquelle est dévolue l'audience de la police correctionnelle. Ce chemin est celui que prennent aussi les accusés pour aller de la conciergerie à l'audience et pour en revenir. Dans la salle des pas perdus, entre la porte de la première chambre du tribunal de première instance et le perron qui mène à la sixième, on remarque immédiatement, en s'y promenant pour la première fois, une entrée sans porte, sans aucune décoration d'architecture, un trou carré, vraiment ignoble. C'est par là que les juges, les avocats, pénètrent dans ces couloirs, dans le corps de garde, descendent à la souricière et au guichet de la conciergerie. Tous les cabinets des juges d'instruction sont situés à différents étages dans cette partie du palais. On y parvient par d'affreux escaliers, un dédale où se perdent presque toujours ceux à qui le palais est inconnu. Les fenêtres de ces cabinets donnent les unes sur le quai, les autres sur la cour de la conciergerie. En 1830, quelques cabinets de juges d'instruction avaient vu sur la rue de la Barillerie. Ainsi, quand un panier à salade tourne à gauche dans la cour de la conciergerie, il amène des prévenus à la souricière. Quand il tourne à droite, il importe des accusés à la conciergerie. Ce fut donc de ce côté que le panier à salade où se trouvait Jacques Collin se dirigea pour le déposer au guichet. Rien de plus formidable. Criminels ou visiteurs aperçoivent deux grilles en fer forgé, séparées par un espace d'environ 6 pieds, qui s'ouvrent toujours l'une après l'autre, et à travers lesquelles tout est observé si scrupuleusement que les gens à qui le permis de visiter est accordé passent cette pièce à travers la grille avant que la clé ne grince dans la serrure. Les magistrats instructeurs, ceux du parquet eux-mêmes, n'entrent pas sans avoir été reconnus. Aussi, parler de la possibilité de communiquer ou de s'évader, le directeur de la conciergerie aura sur les lèvres un sourire qui glacera le doute chez le romancier le plus téméraire dans ses entreprises contre la vraisemblance. On ne connaît dans les annales de la conciergerie que l'évasion de la Valette, mais la certitude d'une auguste connivence, aujourd'hui prouvée, a diminué, sinon le dévouement de l'épouse, du moins le danger d'un insuccès. En jugeant sur les lieux de la nature des obstacles, les gens les plus amis du merveilleux reconnaîtront qu'en tout temps, ces obstacles étaient ce qu'ils sont encore, invincibles. Aucune expression ne peut dépeindre la force des murailles et des voûtes. Il faut les voir. Quoique le pavé de la cour soit en contrebas de celui du quai, lorsque vous franchissez le guichet, il faut encore descendre plusieurs marches pour arriver dans une immense salle voûtée dont les puissantes murailles sont ornées de colonnes magnifiques et sont flanquées de la tour Montgomery qui fait partie aujourd'hui du logement du directeur de la conciergerie, et de la tour d'argent qui sert de dortoir aux surveillants, guichetiers ou porte-clés, comme il vous plaira de les appeler. Le nombre de ces employés n'est pas aussi considérable qu'on peut l'imaginer. Ils sont 20. Leur dortoir, de même que leur coucher, ne diffère pas de celui dit de la pistole. Ce nom vient sans doute de ce que jadis, les prisonniers donnaient une pistole par semaine pour ce logement, dont la nudité rappelle les froides mansardes que les grands hommes sans fortune commencent par habiter à Paris. À gauche, dans cette vaste salle d'entrée, se trouve le greffe de la conciergerie, espèce de bureau formé par des vitrages, où siègent le directeur et son greffier, où sont les registres d'écrou. Là, le prévenu, l'accusé sont inscrits, décrits et fouillés. Là se décide la question du logement dont la solution dépend de la bourse du patient. En face du guichet de cette salle, on aperçoit une porte vitrée, celle d'un parloir où les parents et les avocats communiquent avec les accusés par un guichet à double grille en bois. Ce parloir tire son jour du préau, le lieu de promenade intérieure où les accusés respirent au grand air et font de l'exercice à des heures déterminées. Cette grande salle éclairée par le jour douteux de ces deux guichets, car l'unique croisée donnant sur la cour d'arrivée est entièrement prise par le greffe qui l'encadre, présente au regard une atmosphère et une lumière parfaitement en harmonie avec les images préconçues par l'imagination. C'est d'autant plus effrayant que parallèlement aux tours d'argent et de Montgomery, vous apercevez ces cryptes mystérieuses, voûtées, formidables, sans lumière, qui tournent autour du parloir, qui mènent au cachot de la reine, de Madame Élisabeth, et aux cellules appelées les secrets. Ce dédale en pierre de taille est devenu le souterrain du palais de justice après avoir vu les fêtes de la royauté. De 1825 à 1832, ce fut dans cette immense salle, entre un gros poêle qui la chauffe et la première des deux grilles, que se faisait l'opération de la toilette. On ne passe pas encore sans frémir sur ces dalles qui ont reçu le choc et les confidences de tant de derniers regards. Pour sortir de son affreuse voiture, le moribond eut besoin de l'assistance de deux gendarmes qui le prirent chacun sous un bras, le soutinrent et le portèrent comme évanoui dans le greffe. Ainsi traîné, le mourant levait les yeux au ciel de manière à ressembler au Sauveur descendu de la croix. Certes, dans aucun tableau, Jésus n'offre une face plus cadavérique, plus décomposée, que ne l'était celle du faux Espagnol. Il semblait près de rendre le dernier soupir. Quand il fut assis dans le greffe, il répéta d'une voix défaillante les paroles qu'il adressait à tout le monde depuis son arrestation. « Je me réclame de son Excellence, l'ambassadeur d'Espagne. »« Vous direz cela, » répondit le directeur à monsieur le juge d'instruction. « Ah, Jésus !» répliqua Jacques Collin en soupirant. « Ne puis-je avoir un bréviaire ? Me refusera-t-on toujours un médecin ? Je n'ai pas 2 heures à vivre. » Carlos Herrera, devant être mis au secret, il fut inutile de lui demander s'il réclamait les bénéfices de la pistole, c'est-à-dire le droit d'habiter une de ces chambres où l'on jouit du seul confort permis par la justice. Ces chambres sont situées au bout du préau, dont il sera question plus tard. L'huissier et le greffier remplirent de concert et flegmatiquement les formalités de l'écrou. « Monsieur le directeur, » dit Jacques Collin en baragouinant le français, « je suis mourant, vous le voyez. Dites, si vous le pouvez, dites surtout le plus tôt possible à ce monsieur juge que je sollicite comme une faveur ce qu'un criminel devrait le plus redouter, de paraître devant lui dès qu'il sera venu, car mes souffrances sont vraiment intolérables, et dès que je le verrai, toute erreur cessera. » Règle générale, les criminels parlent tous d'erreur. Allez dans les bagnes, questionnez-y les condamnés. Ils sont presque tous victimes d'une erreur de la justice. Aussi ce mot fait-il sourire imperceptiblement tous ceux qui sont en contact avec des prévenus, des accusés ou des condamnés. Je puis parler de votre réclamation au juge d'instruction, répondit le directeur. Je vous bénirai donc, monsieur, répliqua l'Espagnol en levant les yeux au ciel. Aussitôt écroué, Carlos Herrera, pris sous chaque bras par deux gardes municipaux, accompagnés d'un surveillant, à qui le directeur désigna celui des secrets où devait être renfermé le prévenu, fut conduit par le dédale souterrain de la conciergerie dans une chambre très saine, quoi qu'en aient dit certains philanthropes, mais sans communication possible. Quand il eut disparu, les surveillants, le directeur de la prison, son greffier, l'huissier lui-même, les gendarmes, se regardèrent en gens qui se demandent les uns aux autres leur opinion, et sur toutes les figures se peignit le doute. Mais à l'aspect de l'autre prévenu, tous les spectateurs revinrent à leur incertitude habituelle, cachés sous un air d'indifférence. À moins de circonstances extraordinaires, les employés de la conciergerie sont peu curieux, les criminels étant pour eux ce que les pratiques sont pour les coiffeurs. Aussi, toutes les formalités dont l'imagination s'épouvante s'accomplissent-elles plus simplement que des affaires d'argent chez un banquier, et souvent avec plus de politesse. Lucien présenta le masque du coupable abattu, car il se laissait faire, il s'abandonnait en machine. Depuis Fontainebleau, le poète contemplait sa ruine, et il se disait que l'heure des expiations avait sonné. Pâle, défait, ignorant tout ce qui s'était passé pendant son absence chez Esther, il se savait le compagnon intime d'un forçat évadé. Cette situation suffisait à lui faire apercevoir des catastrophes pires que la mort. Quand sa pensée enfantait un projet, c'était le suicide. Il voulait échapper, à tout prix, aux ignominies qu'il entrevoyait comme un rêve pénible. Jacques Collin fut placé, comme le plus dangereux des deux prévenus, dans un cabanon tout en pierre de taille qui tire son jour d'une de ces petites cours intérieures, comme il s'en trouve dans l'enceinte du palais, et située dans l'aile où le procureur général a son cabinet. Cette petite cour sert de préau au quartier des femmes. Lucien fut mené par le même chemin, car, selon ses ordres, le directeur eut des égards pour lui, dans un cabanon contigu aux pistoles. Généralement, les personnes qui n'auront jamais de démêlés avec la justice conçoivent les idées les plus noires sur la mise au secret. L'idée de justice criminelle ne se sépare point des vieilles idées sur la torture ancienne, sur l'insalubrité des prisons, sur la froideur des murailles de pierre d'où suintent des larmes, sur la grossièreté des geôliers et de la nourriture, accessoires obligés des drames. Mais il n'est pas inutile de dire ici que ces exagérations n'existent qu'au théâtre et font sourire les magistrats, les avocats et ceux qui, par curiosité, visitent les prisons ou qui viennent les observer. Pendant longtemps, ce fut terrible. Il est certain que les accusés étaient, sous l'ancien Parlement, dans les siècles de Louis XIII et de Louis XIV, jetés pêle-mêle dans une espèce d'entresol au-dessus de l'ancien guichet. Les prisons ont été l'un des crimes de la Révolution de 1789. Et il suffit de voir le cachot de la reine et celui de Madame Élisabeth pour concevoir une horreur profonde des anciennes formes judiciaires. Mais aujourd'hui, si la philanthropie a fait à la société des maux incalculables, elle a produit un peu de bien pour les individus. Nous devons à Napoléon notre code criminel, qui, plus que le code civil, dont la réforme est en quelque point urgente, sera l'un des plus grands monuments de ce règne si court. Notre nouveau droit criminel ferma tout un abîme de souffrances. Aussi peut-on affirmer qu'en mettant à part les affreuses tortures morales auxquelles les gens des classes supérieures sont en proie en se trouvant sous la main de la justice, l'action de ce pouvoir et d'une douceur et d'une simplicité d'autant plus grande qu'elles sont inattendues. L'inculpé, le prévenu, ne sont certainement pas logés comme chez eux, mais le nécessaire se trouve dans les prisons de Paris. D'ailleurs, la pesanteur des sentiments auxquels on se livre ôte aux accessoires de la vie leur signification habituelle. Ce n'est jamais le corps qui souffre. L'esprit est dans un état si violent que toute espèce de malaise, de brutalité, s'il s'en rencontrait dans le milieu où l'on est, se supporterait aisément. Il faut admettre, à Paris surtout, que l'innocent est promptement mis en liberté. Lucien, en entrant dans sa cellule, trouva donc la fidèle image de la première chambre qu'il avait occupée à Paris, à l'hôtel Cluny. Un lit semblable à ceux des plus pauvres hôtels garnis du quartier latin, des chaises foncées de paille, une table et quelques ustensiles composaient le mobilier de l'une de ces chambres, où souvent on réunit deux accusés quand leurs mœurs sont douces et leurs crimes d'une catégorie rassurante, comme les faux et les banqueroutes. Cette ressemblance entre son point de départ, plein d'innocence, et le point d'arrivée, dernier degré de la honte et de l'avilissement, fut si bien saisie par un dernier effort de sa fibre poétique qu'il fondit en larmes. Il pleura pendant 4 heures, insensible en apparence comme une figure de pierre, mais souffrant de toutes ses espérances renversées, atteint dans toutes ses vanités sociales écrasées, dans son orgueil anéanti, dans tous les moi que présentent l'ambitieux, l'amoureux, l'heureux, le dandy, le parisien, le poète, le voluptueux et le privilégié. Tout en lui s'était brisé dans cette chute icarienne.